Ce matin, j'aimerais vous partager une histoire vraie, qui a lieu aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est une histoire que je raconte souvent dans le cadre des cours que on peut avoir avec les jeunes qui veulent aller plus loin avec Dieu, dans le cadre des cours découvertes. Et c'est l'histoire d'un pasteur américain qui est en train de postuler à plusieurs reprises. Suite à plusieurs entretiens pour entrer dans une grande église. Et donc, il a passé par plusieurs étapes. Il a été d'abord reçu par les pasteurs de l'église, puis il a, après avoir répondu à tout un tas de questions sur la foi, il a exposé son témoignage pendant plein d'heures. Ensuite, il a rencontré le conseil de l'église, puis après avoir rencontré le conseil de l'église, il a rencontré les responsables, et puis ça a duré, et puis le processus prend toujours un peu de temps. Et puis arrive le moment où l'église approuve ce nouveau pasteur, et il se retrouve devant l'assemblée. C'est sa première prédication. Tout le monde est heureux de le recevoir, tout le monde est joyeux d'entendre pour la première fois le pasteur qu'il vient de recevoir. Et vous savez qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, j'ai un aveu à vous faire. Petite inquiétude dans la salle. Un aveu à nous faire. Ça fait un mois qu'on essaie de tout savoir sur toi et t'as un aveu à nous faire. Personne ne dit rien, bien sûr, mais tout le monde s'inquiète un peu. Mais là, les gens n'ont pas fini de se décomposer quand ils commencent à dire que cet aveu, en fait, qu'il est en train de leur faire, c'est qu'en fait, il leur dit qu'il est nudiste. Il rigole pas là. Alors il y en a qui rigolent jaune. Il s'imagine de le voir en train de nudiste. Bon, il fait pas trop traîner le suspense parce que les gens sont en train de se décomposer. Il lui dit, mais ne vous inquiétez pas, je suis nudiste, non pratiquant. On voit bien l'incohérence d'un tel propos. Nudiste, non pratiquant. Par essence même, ça ne veut rien dire. À l'époque du 1er siècle, quand les écrits du Nouveau Testament ont été écrits, la religion païenne, polythéiste, ne disait rien de notre vie personnelle, de leur vie personnelle. Un adorateur pouvait venir s'incliner devant une statue, offrir un présent, et puis après, juste après, parce qu'il faut bien être conscient, au premier siècle, il pouvait exiger de sa femme qu'elle avorte dans des conditions atroces, ou même pire, exposer son enfant et l'abandonner. Il pouvait l'avoir fait juste après avoir déposé son offrande. Aucune conséquence éthique n'était impliquée par sa foi. L'idée d'être un croyant non pratiquant n'est pas une idée nouvelle. Elle était déjà bien présente au premier siècle. Est-il possible, et c'est ma question pour nous ce matin, est-il possible de croire et de vivre ce que l'on croit? Est-il possible de croire et de vivre ce que l'on croit? J'aimerais qu'on découvre ce que la parole de Dieu a à nous dire. On continue notre parcours sur Colossiens 3, versets 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Paul, après avoir dressé au chapitre 1 le portrait extraordinaire du Fils, de sa totale souveraineté sur l'univers, mais aussi de son œuvre extraordinaire de salut, de pardon, de réconciliation. Vous rappelez, il a réconcilié l'univers tout entier à travers son œuvre, et notamment l'humanité. Et Paul leur dit, au chapitre 2, on l'a vu la dernière fois, que il faut pas suivre le mauvais programme que les faux docteurs leur disaient. Mais maintenant, il veut leur montrer ce que la foi chrétienne, ce qu'ils ont reçu de Christ, ce que le Christ a fait, ce qu'il implique pour leur vie. Et c'est moi qui gère. Et donc, ce matin, on va voir deux points. Et le deuxième point, donc, la première, c'est une nouvelle identité et voir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle identité, d'où on la perçoit. Un peu comme un nouveau système d'exploitation que Dieu a mis en nous lors de notre conversion, lorsqu'il nous a choisis comme ses enfants. Et une deuxième partie qui mettra l'accent sur « pour une nouvelle vie ». Dieu nous a appelés, nous a choisis pour une nouvelle vie. Et nous verrons que cette nouvelle vie, elle commence par un nettoyage. J'appelle ça le nettoyage du disque dur. Et une deuxième étape, installer de nouvelles applications. Et tout ça grâce à Internet. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Alors c'est l'occasion de faire un point. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte la fois dernière, mais on a eu un tournant dans l'épître. Du chapitre 1 au chapitre 2, versets 6 et 7, quand Paul a dit « Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus », et toute son œuvre magistrale pour vous, de réconciliation. Maintenant, il dit pour la première fois dans l'épître, un impératif, le premier impératif de l'épître, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Ainsi, désormais, la foi exige quelque chose. Et on voit que dans tout Colossiens, ce qui nous parcourt, c'est cette liaison à Christ. Nous sommes en lui. Mais dans notre texte, cette fois-ci, on n'est plus en, mais on est avec lui. Vous êtes mort avec Christ. Vous êtes ressuscité avec Christ. Vous paraîtrez un jour avec lui dans sa gloire. Paul rappelle ce que nous sommes avec. Nous sommes avec lui. Nous avons été avec lui. Nous sommes sous une nouvelle sphère. Dieu nous a appliqué un changement complet de système d'exploitation par une identification à son expérience de mort et de résurrection. Maintenant, elle s'est imprimée dans notre vie. Nous sommes morts au péché, à tout ce qui nous contaminait. Notre nouveau système nous a donné une nouvelle identité. Notre vue n'est plus la même. Notre perspective n'est plus la même. Et ce n'est plus la peine d'essayer de suivre le programme des Colossiens qui était de partir de la terre, de faire des efforts un peu techniques, avec des expériences de vision, et puis on allait atteindre les hauteurs. Il fallait partir d'en bas pour arriver en haut. Toutes les religions, depuis le début de l'histoire du monde, et racontées avec subtilité dans l'histoire de la tour de Babel, désirent qu'on parte de la terre et qu'on essaye de monter vers Dieu par nos propres efforts. Mais Paul leur dit, votre problème, ce n'est pas de vouloir désirer aller au ciel ou de vouloir connaître Dieu. Non, ça, c'est une juste quête. Mais votre problème, c'est de vouloir partir de la terre. Avec le Christ, avec cette union que vous avez eue avec lui dans votre passé, vous êtes déjà au ciel. Vous êtes déjà dans les cieux. Tout vous est acquis. Tout vous a été donné. Vous êtes déjà pardonné, réconcilié. Toute votre vie a été comme effacée. Même si aujourd'hui, comme l'on dit au verset 3, cela reste caché en apparence. Cette œuvre magistrale reste cachée. Un jour, verset 4, elle sera manifestée au futur. Toute la foi, autant que ça puisse être paraître la foi placée en Christ, nous avons tout avec cette foi. Pour notre passé, notre présent et notre avenir. Pourtant, malgré cela, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on doit saisir quelque chose. Il nous donne deux impératifs dans notre texte. Chercher. Pas chercher à acquérir, mais tendre vers le comportement que le Christ nous a acquis. Attachez-vous, même ces pensées. Il ne s'agit pas seulement d'un processus mental, mais bien d'une orientation profonde de toute notre volonté. Le premier combat que nous avons à mener en tant que chrétiens, et ça c'est Paul qui nous le dit, c'est de mener cela dans nos pensées et de croire ce que le Christ a déjà complètement acquis au chapitre 1, au chapitre 2. Depuis notre adoption, nous avons tout avec lui. Nous avons la victoire sur la croix. Je me répète, la victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable. Nous avons une vie nouvelle qui a débuté. Nous avons, il nous faut nous rappeler de ce que nous avons, de cette union que nous avons maintenant avec le Christ par son esprit. Celle qui nous a donné le fait que nous sommes saints, justes, vainqueurs. Il est tentant d'avoir une perspective. Le problème, c'est que cette perspective, on a tendance à l'oublier à cause de notre nature terrestre, nous dit le texte. Et il est tentant d'avoir une piètre opinion de soi. Et souvent, dans ce cadre-là, on souffre d'un complexe d'infériorité qui peut nous paralyser. Mais à l'opposé, on peut aussi vouloir prendre conscience de notre valeur et peut vouloir booster notre moi, se mettre en valeur, s'épanouir. Alors la pensée joue aussi un rôle là pour adopter des attitudes mentales positives. Je suis bien, je suis bon, méthode Coué. Et cette attitude finit toujours par un culte de nous-mêmes. D'où alors tirer cette juste opinion de nous-mêmes. La réponse se trouve à la croix, et notamment dans la mort judiciaire pour nous. C'est la mort au péché par notre union à Christ qui a détruit le pouvoir sur le péché. Nous devons constamment y revenir, constamment nous y nourrir, constamment se rappeler que c'est le cœur de notre foi. La croix, la résurrection est le cœur de notre foi. Et il nous faut en prendre totalement confiance parce que nous allons devoir faire mourir certaines choses, nous dit l'apôtre. Parce qu'après avoir changé ce système d'exploitation, malheureusement, il y a encore des résidus, il y a du nettoyage à faire, un peu comme quand le PC a été rebooté, redémarré à zéro, ben il est plus lent qu'au début, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé qui a encore un impact pour nous, sur nous? D'ailleurs, on pourrait être un peu agacé par Paul et par notamment ces versets qui commencent au verset 5 et qui se terminent au verset 9. On se dit, Paul, tu nous parles de manière négative, mais on aimerait que tu nous avertisses pas toujours de manière négative, on aimerait que tu nous donnes des choses positives. Ça, il va le faire juste après, mais... D'abord, il commence par les choses négatives. Alors, heureusement qu'on ne dit pas ça à un médecin, hein, parce que on est content quand le médecin il pose un diagnostic de ce qui ne va pas, pour qu'après ça puisse être traité. C'est pareil que quand on va chez le, quand on veut que notre terrain puisse porter des belles fleurs, ben, à un moment donné, il va falloir appliquer du désherbant, il va falloir arracher les mauvaises herbes avant de planter. La nouvelle pelouse ou... Ainsi, les avertissements que Paul nous donne sont là pour que nous menions cette nouvelle vie auquel nous sommes déjà totalement bénéficiaires. D'après beaucoup de commentaires, les péchés décrits au verset 5, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, sont de près ou de loin liés à la sexualité. Et c'est vraiment un ensemble de pratiques qui nuisent profondément à la beauté de la sexualité et du cadre défini par Dieu. Et qui place l'homme en ennemi de Dieu. Dieu n'est pas seulement, comme on a pu le voir au chapitre 1, un Dieu d'ordre au plan cosmique, au plan de l'univers. Il est aussi un ordre au plan de la morale. Ce qui est bien, ce qui est mal. Car Dieu, si Dieu n'ordonne pas cela, d'où vient cette conviction qui est profondément ancrée dans chaque être humain de la notion du bien et du mal, de la justice? Sinon, qui peut dire ce qui est bien ou ce qui est mal? Car pour certains, le bien, c'est d'aimer les autres. Pour d'autres, c'est de les manger. Vous me direz. Ou de les tuer dans des chambres à gaz. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal si Dieu ne définit pas à un moment donné ce qui est bien et ce qui est mal? Aujourd'hui, on ne veut plus entendre que un être supérieur puisse donner son avis sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais s'il n'est plus là, alors tout doit être relativisé. Et je ne sais plus alors comment on doit juger Hitler. La débauche introduit la possibilité de vivre une sexualité en dehors du mariage entre un homme et une femme. Elle détruit la structure fondatrice de l'humanité et notamment même avant le mariage avec le concubinage ou pendant le mariage avec des relations extra-conjugales ou homosexuelles. De telles pratiques nous rendent impurs, nous dit le texte, souillés, notre être est profondément sali. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est sans doute liée à ces désirs décrivent des actions où l'homme et la femme n'est plus maître de lui-même. mais irrémédiablement entraîné dans un chemin qui l'avilit, qui le déshumanise. La pornographie fait partie de ses actions, auxquelles on se livre caché parfois le soir, quand tout le monde dort au devant de nos PC, nos tablettes. Elle amorce notre être, suscite en nous des désirs incontrôlés, comme parfois la masturbation compulsive. Ces pratiques nous lient, nous isolent, nous replient sur nous-mêmes et finissent par nous tourner vers nous-mêmes, nous dégoûtant même de nous-mêmes, étant totalement asservis. Hors de ces actes, Paul nous dit, faites-les mourir. Pas juste un petit conseil léger du style, voilà. Non, vous devez les faire mourir. Et ça, c'est pas que Paul qui le dit. Christ, en Marc 8, on l'a vu avec les jeunes, il nous a déjà parlé de cette mort, de cette croix qu'il faut porter. Cette lutte est loin d'être facile car elle agit dans nos membres, nous dit le texte. Une autre manière de dire qu'elle nous a touchés à un moment donné dans notre vie. Mais la mort auquel nous devons nous livrer peut être illustrée par cette histoire. Si on n'est pas prêt à rentrer dans cette mort, c'est terrible l'issue de cette mort. Le 20 juillet 93, en Pennsylvanie, un employé d'une société minière était occupé à défricher un terrain. Il commence à couper un arbre et l'arbre tombe et lui roule sur le tibia, provoquant une grave fracture en le clouant au sol. Pendant une bonne heure, il appelle au secours. Et puis il se rend bien vite compte que personne ne va venir. Alors il en conclut donc que le seul moyen de sauver sa vie, c'est de se couper la jambe. Se servant d'un lacet, il confectionne un garrot qui sert à l'aide d'une clé anglaise. Puis il entreprit de sectionner la peau, puis le muscle, et enfin l'os, jusqu'au-dessous du genou. Ce qui lui permit de se dégager de l'arbre. Après, il a rampé. C'est une histoire qui est relatée il rampe jusqu'au bulldozer. Avec le bulldozer, il va jusqu'à 500 mètres, jusqu'à son camion. Et puis là, je sais pas comment il a fait, mais il a dû appuyer pour l'accélérateur. Pendant 2,5 km, il a roulé jusqu'à une ferme. Et là, le propriétaire, il a pu l'amener à l'hôpital, il a pu être sauvé. Ah, punaise. Comme le dit ce pasteur John Piper, bien des chrétiens engagés ont une conception du salut qui est déconnectée de la réalité de la vie. Elle invalide trop facilement les menaces de la Bible. Et celui qui se pêche tout en se réclamant de la foi se croit à l'abri des avertissements. Et il termine. Je crois personnellement que cette conception de la vie chrétienne rassure beaucoup des milliers de gens qui marchent sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Paul et Jésus n'ont pas dit que les chrétiens seraient toujours victorieux. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons déterminés comme cette personne à tout faire pour lutter contre nos afflictions. Il ne nous a pas garanti toujours la victoire, mais il nous a demandé de lutter. De faire mourir avec détermination ce qui est de l'ordre de notre ancienne manière de vivre. Même si certains d'entre vous peut-être subissent un esclavage qui les oblige à de telles pratiques, on ne peut pas non plus se satisfaire toujours de se déculpabiliser. À un moment donné, vous avez besoin d'être aidé pour sortir de ça. Il vous faut croire que Dieu peut vous aider à en sortir. Le saisir par la foi. C'est dur, mais l'enjeu, il est de taille, nous dit le texte. Car ce sont de tels comportements. Ce sont de tels comportements qui attirent, verset 6, la colère de Dieu. Et celle-ci est synonyme du jugement, qui est bien plus à craindre que n'importe quel homme. Mais il ne s'en tient pas seulement au problème de la sexualité, car après avoir demandé de faire mourir, il nous demande de renoncer. Nous rappelons les paroles de Jésus, celui qui renonce à lui-même. Si vous pensiez peut-être épargné par la liste précédente, je pense désormais que nous sommes tous concernés. De près ou de loin, ces péchés ont un lien avec notre bouche et notre capacité de la maîtriser. De la colère, ce sentiment qui est juste en Dieu devant l'horreur du mal commis et du mal qui est subi. Méfie épouvantable chez nous lorsqu'il se déchaîne envers notre conjoint ou notre frère ou sœur dans l'église. Sans parler parfois de la méchanceté que nos paroles peuvent avoir, qui blesse nos frères et sœurs. Même parfois sans le savoir. La calomnie, nous dit le texte, des fausses accusations, les critiques. Les mensonges au sein de la communauté qui prennent la forme d'un attachement plus à l'erreur qu'à la vérité. Renonçons. Ne nous livrons plus à nos penchants naturels. Vous n'êtes plus cela avec le Christ. Vous devez y renoncer. Ce n'est plus ça qui vous définit. Ce n'est plus ça qui fait partie de votre vie. Certes, de votre cœur sort l'ensemble de la pourriture, nous dit Jésus. Mais Christ, à la nouvelle naissance, a opéré en nous une transplantation cardiaque qui rend possible au cœur de fonctionner correctement. Nous ne sommes plus vêtus de ce manteau qui nous avilit obligatoirement, nous rend incapables de faire ce que nous devrions faire. Non, il nous rend possible d'être ces hommes nouveaux. Et ça, c'est la fin de notre texte qui nous montre. Après avoir nettoyé mon disque dur, je dois mettre de nouvelles applications. Et pour ça, j'ai besoin d'être en réseau pour être connecté à Internet. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ces nouvelles affections, cette nouvelle vie, elle peut être vécue surtout parce qu'on fait partie d'une nouvelle communauté. Ceux qui appartiennent à Christ constituent une nouvelle humanité. Qu'on soit iranien, qu'on soit africain, d'origine français, malgache, martiniquais, guadeloupéen, riche, pauvre, cultivé, sans formation, de droite, de gauche. Tout ça n'est pas supprimé, mais est relativisé. Versets 10 et 11. Nous appartenons maintenant à une famille, la famille où Jésus nous a introduits. Et toutes nos anciennes appartenances sont relativisées. Ainsi, cet homme nouveau n'est pas seulement une partie de moi, mais une identité collective, un peuple que Dieu veut former, nous dit le texte.